Quand j'étais en plein burn-out et que j'ai eu très très peur de mourir, j'ai tout de suite pris conscience qu'on n'était pas immortel et que du coup c'était quoi l'intérêt d'être sur cette planète. Et ben je me suis dit tout simplement, mais il est hors de question que je ne fasse pas de ce passage un passage extraordinaire et que je ne vive pas toutes les expériences que j'ai envie de vivre, que je ne donne pas vie à tous les projets auxquels j'ai envie de donner vie et que je ne devienne pas la femme que je veux être et que je ne vive pas la vie de mes rêves. On est vraiment là, je pense, pour se construire la vie qu'on mérite de vivre et pour faire ce qu'on a envie de faire tout simplement.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence.
Salut Sandra.
Salut Alec.
Comment tu vas ?
Écoute, très très bien. Ravie de passer sur ton podcast.
Bah écoute, avec plaisir, merci en tout cas de ta présence ici. Je pense que cet épisode va être extrêmement intéressant et inspirant pour ces mesdames, mais peut-être aussi ces messieurs également. Sandra Verger, tu es fondatrice du groupe Les Locomotives, contenant notamment le podcast Les Locomotives avec plus d'un million d'écoutes cumulées. Locomotive Academy, qui est un programme aidant les femmes à s'émanciper du salariat. Aussi Locomotive Business, programme aidant les femmes entrepreneurs à faire passer leur business au niveau supérieur. Et également Les Talk Shows, qui est un événement réunissant des centaines de femmes. On parle ici de plus de 450 femmes accompagnées. Une mission centrale qui est d'aider les femmes à remplacer leur peur par l'audace. La solution, leur donner de l'inspiration, des exemples concrets de femmes qui ont osé. Et donc encore aujourd'hui, avec cet épisode, on va leur donner de l'inspiration. Et avant de commencer avec ma première question, j'ai envie de mettre en lumière un de nos auditeurs qui est Corentin, qui nous dit « Merci pour le contenu que tu apportes au quotidien, c'est vraiment incroyable, la valeur ajoutée des intervenants ainsi que tes questions bien senties permettent de vraiment aller en profondeur, gratitude à toi, une référence en francophonie, ben, on va faire en sorte encore aujourd'hui eh bien, de vous apporter un maximum de valeur avec cet épisode. » Sandra, j'ai envie de revenir sur tes débuts. Après 8 ans passés dans l'hôtellerie de luxe, tu subis en 2019 un burn-out sévère. Comment est-ce que ce passage t'a amené à remettre en question ta vie et comment cela a finalement été un catalyseur pour te lancer ?
Écoute, alors déjà, c'est quelque chose que je n'ai pas vu venir et c'est pour ça que j'invite beaucoup de personnes à apprendre à s'écouter, à apprendre à écouter nos signaux, nos mots psychologiques comme nos mots physiques. Pour ma part, ça a été très très violent, ça a été vraiment d'une violence assez extrême. Je ne sais pas si tu voudras que je rentre dans les détails. En tout cas, je ne m'y attendais pas du tout et je me suis retrouvée du jour au lendemain, vraiment, tu vois, prise de malaise très, terrifiant, comme si vraiment tu te sentais en urgence vitale pour rentrer un petit peu dans les détails. Donc si tu veux, ça a été pour moi un bouleversement et une remise en question totale de ma vie, puisque je me suis retrouvée comme la sensation en fait d'être en urgence vitale. J'avais la sensation d'avoir, tu vois, une maladie, une pathologie physique très grave, alors que c'était pas le cas. C'est le temps d'accepter finalement que ce soit une pathologie psychologique et non pas physique. Donc bien évidemment que ça a été pour moi le déclic, j'ai envie de dire, le déclic de ma vie. En fait, j'ai pris conscience que j'étais pas en train de vivre la vie que je méritais, que j'avais envie de vivre. Je n'avais pas la vie professionnelle qui m'épanouissait pleinement. Donc, j'ai remis absolument toute ma vie en question.
C'est du coup, j'imagine également, suite à cette prise de conscience et ce déclic, que tu te dis j'ai envie d'avoir une vie différente. Est-ce que c'est dans le même temps que tu te dis que toi aussi, à ton tour, par la suite, tu as envie de pouvoir inspirer, impacter, transformer la vie d'autres femmes qui peut-être vivent la même chose par le même biais ou d'une intensité différente que toi ?
Ouais, en fait, la première chose que je me dis, c'est « Ok, il va falloir que je me sorte de cette situation le plus rapidement possible, puisque si tu veux, j'ai quand même pris conscience que plus longtemps je restais dans cette situation, plus ça allait être compliqué d'en sortir. Donc la première chose que je me suis dit, c'est « Ok, il va falloir que je fasse tout mon possible pour me sortir de cette situation au plus vite et que j'agisse un petit peu, si tu veux, comme une sorte de... Ouais, comme un cobaye, en fait, sur moi-même, sur ma vie et tester, finalement, toutes les méthodes dont j'avais entendu parler pour voir ce qui allait réellement m'aider à me sortir de cette situation. Et ensuite, bien sûr, que ça résonnait d'autant plus en moi. J'avais déjà, si tu veux, en amont, envie d'aider les femmes parce que je voyais bien qu'il y avait énormément de femmes autour de moi qui n'étaient pas satisfaites de leur vie, qui avaient des projets en elles, mais qui n'osaient pas les réaliser par peur d'échouer, peur du regard des autres, peur d'être jugé, peur de rater, de prendre la mauvaise décision. Et du coup, je me suis dit, je vais d'abord, moi, me sortir de cette situation, faire vraiment un virage, si tu veux, à 180 pour voir de quoi je suis capable et est-ce que je suis capable de me construire cette vie que je mérite, de me construire ma vie sur mesure. Et ensuite, je vais apprendre aux autres femmes, à toutes les femmes, enfin un maximum de femmes du moins, comment est-ce qu'on fait exactement, quel est le plan d'action à suivre.
Quand tu dis « je désirais me sortir de cette situation », tu parles ici du burn-out ou tu parles ici du système dans lequel tu étais qui ne te permettait pas d'avoir la liberté que tu désirais ?
Alors, je parle du burn-out. Là, vraiment, je parle du burn-out. La priorité, si tu veux, c'était vraiment de me sortir du burn-out puisque, comme je te disais, c'était vraiment un burn-out sévère, ce qui n'est pas forcément le cas chez tout le monde. Tu peux avoir des burn-out un petit peu plus légers. Il y a plusieurs types de burn-out. Dans mon cas, si tu veux, ça s'est lié tout de suite à de l'anxiété généralisée. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, voilà. Et l'anxiété généralisée, c'est très compliqué. Et si tu veux, si tu ne traites pas ça, c'est compliqué d'aller de l'avant, de construire un projet, de développer un business, de changer de vie, de quitter ton CDI, de quitter Paris, tu vois, moi j'ai tout quitté. Donc il faut d'abord se remettre sur pied quand même, un minimum psychologiquement parlant.
Et comment tu t'y es pris justement ? Parce que imaginons que, j'en profite, tu me tends la perche, imaginons qu'un de nos auditeurs, une de nos auditrices est actuellement dans cette situation ou sent qu'elle pourrait l'être potentiellement, comment est-ce que concrètement tu t'y es pris pour réussir à sortir de cette situation de burn-out et te reconstruire progressivement jusqu'à arriver là où tu en es aujourd'hui ?
Ouais, très bonne question. La première chose qui se passe en général, pour beaucoup de personnes qui ont des types de burn-out comme celui que j'ai eu, c'est qu'on a du mal à accepter que ce soit un problème psychologique. On va tout de suite se dire, bah non, les symptômes physiques que j'ai, que je ressens, sont tellement, vraiment, j'insiste sur le mot terrifiant. Parfois, ça peut être des malaises, tu vois, qui sont sensiblement similaire, en tout cas, on pourrait penser, parce qu'on n'a pas forcément vécu, à, je sais pas, un AVC ou quelque chose de très grave. Les symptômes, tu sais, ça peut être des fourmillements dans le visage, dans le bras, moi c'est ce que j'avais, des pointes au cœur. Donc c'est difficile de se dire que c'est psychologique, c'est difficile d'accepter que des symptômes aussi dingues, aussi forts, aussi puissants, soient générés, soient suscités par un aspect psychologique. Donc c'est déjà de se dire, il faut que je fasse le nécessaire, donc moi, dans mon cas, c'était de faire un maximum de rendez-vous avec des experts, des médecins, quoi, en fait, spécialistes dans différents domaines, jusqu'à ce que j'accepte que ce soit psychologique. Donc, tu vois, je suis allée voir des cardiologues, des neurologues, je suis même allée voir un médecin, ce qu'on appelle un médecin, un interniste, si je ne dis pas de bêtises. C'est un peu les espèces de Dr House, quand tu ne trouves pas ce que tu as, bah, tu vas voir un médecin qui fait cette spécialité-là. Et je suis allée en voir plusieurs cardiologues, plusieurs neurologues, jusqu'à vraiment, si tu veux, m'auto-persuader, auto-convaincre convaincre mon cerveau qu'il s'agissait quelque chose de psychologique. Et en fait, ça, c'est la première phase, et c'est la première phase, c'est la plus compliquée, en fait, puisque beaucoup de personnes vont rester des mois, peut-être même des années, enfermés dans ce schéma en pensant que non, ils sont vraiment en urgence vitale, qu'il y a une pathologie physique derrière, une maladie grave, et ils n'arrivent pas à accepter que ce soit psychologique. Donc la première étape, c'est vraiment accepter que ce soit psychologique, et s'il faut dépenser des centaines, voire des milliers d'euros, comme j'ai fait, en allant voir des médecins, en passant des scanners, des IRM, etc., vraiment faites-le, parce qu'il faut se sortir de cette étape-là au plus vite.
Complètement. Deuxième point.
Pardon, vas-y, je t'en prie.
Non, je rebondissais juste, excuse-moi, je t'ai coupé. Et c'est top, tu déroules et tu délivres déjà un maximum de valeur, donc continue comme ça, c'est génial. Mais je rebondissais par rapport à l'investissement du fait de dépenser quelques centaines ou quelques milliers d'euros pour ça. On parle quand même de sa vie, on parle quand même de l'avenir de sa vie, donc c'est vraiment capital. J'insiste sur l'importance de ce premier point, je te laisse dérouler sur le second, excuse-moi.
Complètement. Et tu as raison d'insister là-dessus. Là, vraiment, l'argent, ça devient quelque chose de secondaire. La priorité, bah, c'est nous, hein, c'est se sortir de cette situation. Et c'est important de se dire, OK, je suis prête à investir, comme tu viens de le dire, de l'argent pour me sortir de cette situation. Et clairement, quand on est dans cette situation, on a besoin d'aide. Du coup, transition avec la deuxième étape, le deuxième point. Une fois qu'on a pris conscience que nous sommes donc en détresse psychologique, il faut se faire aider. Et là, pour se faire aider, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Moi, j'ai pris le parti de me dire, je vais tester plusieurs choses, puisque je ne savais pas comment ça fonctionnait, je ne savais pas quels allaient être les résultats sur moi. Donc, j'ai testé l'hypnose, j'ai testé les thérapies cognitives et comportementales, je suis même allée voir une énergéticienne, et bien sûr la thérapie normale. Et donc, c'était très bien de tester plusieurs choses. Ça m'a permis de trouver ce qui fonctionnait le mieux pour moi. Et vraiment, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je prône la thérapie normale, quoi. Parce que c'est vraiment ça qui m'a sortie de cette situation, mais à une rapidité complètement dingue. Alors après, des crises d'angoisse, j'en avais encore. Tout n'était pas encore guéri, si tu veux. Ça a pris quand même, je sais pas, peut-être 2 ans. Mais je suis quand même sortie de cette situation au bout de 4 mois, tu vois, alors que ça aurait pu durer pour, je sais pas, des mois, peut-être même une année. Donc c'était quand même assez rapide. Mais vraiment, pour être très, comment dire, très honnête, j'ai pas perdu de temps. Tu vois, même si c'était compliqué, pour que tu comprennes, je me suis retrouvée à aller aux urgences 4 fois en un mois. Parce qu'en fait, quand t'es dans cette situation-là, dès que tu as des symptômes de ce type-là ou que tu refais ce genre de malaise, eh ben, ta réaction, c'est de te dire « il faut que j'aille à l'hôpital puisque je vais potentiellement mourir ». Et ton cerveau, eh ben, il a du mal à accepter, comme je te le disais tout à l'heure, que non, tu ne vas pas mourir, c'est juste la même mélodie qui se répète, tu es juste, encore une fois, dans une crise d'angoisse sévère, etc. Donc ça, tu vois, c'est déjà très dur à accepter. Et donc vraiment, la deuxième étape, c'est vraiment, vraiment, vraiment de se faire aider, ne pas penser qu'on peut y arriver tout seul parce que soit on ne va pas y arriver, soit ça va prendre 2 fois plus de temps.
Hyper intéressant et je pense qu'il faut vraiment mettre de la valeur sur ce qui vient d'être dit. On ne va pas forcément faire tout l'épisode sur le burn-out parce que tu as énormément de valeur à apporter sur également d'autres sujets, mais j'insiste sur ce qui vient d'être évoqué. Un autre point, c'est qu'à la suite de ce burn-out, tu as mis en place des éléments concrets qui t'ont permis de passer de l'idée de la création de ta première entreprise à finalement la création de ta première entreprise et donc l'écosystème que tu as créé, en tout cas la première brique de l'écosystème que tu as créé. Quels ont été les premiers pas, une fois que tu as pu sortir de cette phase-là, pour entrer dans la nouvelle phase qu'est l'entrepreneuriat ?
Ouais. Alors déjà, en parallèle, on va dire, de cette période-là, j'avais commencé quand même à travailler sur ce projet. Parce que j'avais bien compris aussi que de toute façon, je n'arrivais plus, tu vois, par exemple, à regarder une simple série, un simple film, et que du coup, la seule solution pour moi, c'était de concentrer mon esprit dans quelque chose vraiment qui me permette d'être concentré et d'être, entre guillemets, passionné par ce que je suis en train de faire. Du coup, ça me permettait d'être concentré donc sur ce projet, sur l'élaboration de ce projet. Donc la première chose que j'ai commencé à poser sur papier, c'est ce que j'avais envie de faire. J'avais envie d'aider les femmes, mais je ne comprenais pas encore trop ce que je voulais faire. Mais du coup, j'ai tout posé sur papier. J'ai écrit des tonnes de pages. J'avais toujours un petit carnet sur moi sur lesquels j'écrivais mes idées, etc. Ensuite, une étape qui a été très importante pour moi, à ce moment-là de ma vie, tu sais, je regardais beaucoup de masterclass, de conférences gratuites. Je pense qu'on est tous un peu passés par là. Et du coup, je suis tombée sur une masterclass de Jay Shetty qui explique que lorsque l'on veut lancer un side project, un projet, une des méthodes qui fonctionne bien, c'est de s'entourer de 4 mentors. Alors, je suis désolée, je me rappelle plus forcément de la fonction des 4 mentors, mais grosso modo, tu avais le stratégique mentor, le care mentor et les 2 autres, je m'en rappelle plus. Et du coup, j'ai choisi 4 personnes de mon entourage que j'ai nommé care mentor, stratégique mentor, et je ne sais plus quelle était la thématique des autres mentors. Et en gros, chaque mentor avait un rôle. Donc, je les sollicitais pour ce que je pouvais avoir besoin. Donc, tu vois, par exemple, une réflexion stratégique, j'allais solliciter le stratégique mentor. Ma sœur, je sais qu'elle m'aidait, si tu veux, à garder cet état d'esprit de non, lâche pas, parce qu'au début, quand tu lances un projet, tu vas avoir tendance à te poser dessus, à tout mettre en place. Et à tout moment, tu peux te dire non, mais en fait, ça sert à rien, ça va pas marcher, je laisse tomber. Donc, il y avait aussi ma sœur qui avait ce rôle de me dire non, en fait, stop, ça suffit, tu restes focus, tu vas y arriver, tu vas au bout de ce lancement de projet. Et ensuite, il y a eu la phase où j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que j'interviewe des femmes, que j'avais envie de mettre en lumière des femmes pour justement, comme tu le disais dans l'introduction, inspirer des femmes à mon tour à se construire une vie sur mesure, à s'émanciper du salariat, à lancer tous les projets qu'elles avaient envie de lancer, à ne pas, si tu veux, se résigner à vivre cette vie qu'elles n'avaient pas forcément envie de vivre. Donc j'ai commencé par me rédiger une petite liste de 10 femmes de mon entourage proche ou moins proche qui m'inspiraient et que je pouvais potentiellement faire passer dans mon podcast. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai créé en parallèle, un compte Instagram. J'avais pas du tout Instagram, même pas au niveau perso, donc je connaissais pas du tout le fonctionnement d'Instagram. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à développer le podcast, le premier épisode avec ma sœur, qui avait un parcours de vie assez inspirant, et à lancer mon petit compte Instagram. Et au début, c'était vraiment un side project, c'était pas du tout un business. J'avais pas encore totalement, si tu veux, pensé la monétisation de ce projet, puisque j'étais en CDI en parallèle.
D'accord, ok. Et justement, tu lances donc très tôt et très rapidement ton podcast. Aujourd'hui, tu cumules plus d'un million d'écoutes et c'est vraiment un très beau score. Hein. Je sais de quoi je parle, ayant aussi un podcast du coup. Quel impact tu cherchais à avoir lorsque tu lances ton podcast, et surtout, est-ce que tu pensais à ce moment-là, lorsque tu le lances, que ça pourrait impacter autant de personnes après tous les épisodes que vous avez sortis jusqu'aujourd'hui?
Alors, au début, dans ma tête, j'ai un seul objectif, comme c'est un side project et pas un business, c'est de faire en sorte que mon podcast soit dans le top 5 des podcasts les plus écoutés de développement personnel. J'étais vraiment ultra déter. Tu vois, je visualisais déjà le truc, je me visualisais déjà faisant partie des top podcasts, etc. Je me visualisais recevoir de gros invités. Vraiment, mon seul et unique objectif, c'était pas de savoir comment est-ce que j'allais faire pour vivre de ce side project, c'était... faire partie, si tu veux, des top podcasts. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça voulait dire engager une communauté, l'engager derrière ton projet, derrière ta mission, et faire en sorte d'inspirer un maximum de femmes et de toucher un maximum de personnes. Donc dès le début, si tu veux, j'étais hyper déter. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà la première année, j'étais pas du tout assidue. C'était compliqué, tu vois, je pouvais pas lancer forcément un podcast par semaine. Donc c'était un petit peu... à l'arrache, entre guillemets, parfois j'en sortais deux par mois, enfin voilà. Je faisais ce que je pouvais avec les moyens du bord, donc pendant un an et demi, deux ans peut-être, on va dire que si je faisais 250 écoutes par épisode, c'était le bout du monde, c'était incroyable. Donc tu vois, j'ai quand même pas mal galéré quand même pendant un an et demi, deux ans, les deux premières années.
Ok, et ça c'est hyper intéressant justement, ce serait génial que tu puisses nous raconter ce processus des deux premières années du podcast, parce que la plupart des gens qui peut-être nous écoutent se disent « Ah, j'ai envie de lancer un podcast, j'ai envie de créer du contenu, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça », et malheureusement, se démotive, hein, si on utilise ce terme clairement, parce qu'ils n'ont pas tout de suite les résultats, tu vois. On le dit d'ailleurs, la statistique évoque le fait que un podcast, s'il a 21 épisodes au moins, il fait partie des 90 ou 95% des podcasts qui vont perdurer dans le temps, des 5% pardon, des podcasts qui vont perdurer dans le temps. Donc quel était justement ce processus, et qu'est-ce qui fait que tu as quand même persévéré, tu as continué pour avancer?
Alors, je pense que j'avais vraiment un objectif, mon goal finalement, le moyen d'y arriver, c'était le podcast et le fait de lancer ce side project, mais mon goal, c'était vraiment de m'émanciper du salariat et de devenir entrepreneuse. Donc en fait, j'avais pas d'autre choix de persévérer et de me dire, en fait, ne lâche rien, ça va fonctionner. Sauf que je partais tellement de nulle part, tu vois, j'avais aucune compétence entrepreneuriale, je ne savais pas développer un projet, j'avais pas du tout d'entourage d'entrepreneur. Et en plus de ça, je suis maman, donc j'étais jeune maman, et j'étais en CDI. Donc si tu veux, je devais vraiment, mon temps devait être ultra optimisé pour me former en parallèle, parce qu'une fois que j'allais quitter mon CDI, il fallait que je vive du coup de ce projet. Et en plus de ça, il fallait que je perdure, que je reçoive des invités régulièrement, que j'ai toujours un planning qui soit tenu, etc. Donc je pense que vraiment le meilleur conseil que je peux donner, et c'est vraiment super bateau, mais déjà c'est de garder peut-être l'objectif final toujours en tête. C'est quoi vraiment ta vision? C'est quoi ton objectif? Pour comprendre quelle est ta motivation profonde derrière. Et moi, ma motivation profonde, elle était tellement deep, elle était tellement puissante, c'est-à-dire que jamais je voulais continuer en tant que salarié, je voulais vraiment me sortir de ça, donc je ne lâcherai jamais l'affaire. Et deuxième chose, je pense qu'il faut être discipliné. La première année, elle a été dure, parce que justement, j'avais pas encore cette discipline et j'avais du mal à la garder de un épisode par semaine, de toujours, si tu veux, fournir un bon épisode et avoir des invités au parcours inspirant. Parfois, si tu veux, je trouvais mes invités vraiment sur le tard. Limite, je faisais l'enregistrement la veille et l'épisode sortait le lendemain. Donc forcément, c'était un petit peu compliqué d'exploser les compteurs. Et je pense que toi, tu as un bon exemple pour faire un parallèle avec toi et la manière dont tu fonctionnes avec ton podcast. C'est que toi, tu t'es dit direct, ok, moi je vais charbonner, et si tu dis pas de bêtises, tu sors deux épisodes par semaine et tu lâches rien. Et je pense que ça, c'est vraiment une manière de te démarquer et d'exploser les compteurs très rapidement.
Ouais, complètement. Je te rejoins. Après, je fais quand même un parallèle clair entre toi et moi. Je m'avance peut-être, mais tu me contredis si je me trompe. Tu as quand même beaucoup plus de mérite que moi, je m'explique. Tu faisais tout toute seule. Tu lançais ton podcast, tu trouvais tes invités, tu enregistrais tes épisodes, tu publiais tes épisodes, tu choisissais tes titres, tu diffusais tes épisodes. Or, moi, j'ai la chance d'avoir vraiment déléguer la quasi-intégralité, le seul mérite que j'ai finalement, c'est de capitaliser sur mon réseau ou de savoir poser les bonnes questions. Et encore que, on a un process qui est établi qui fait que j'ai une partie des questions qui sont quand même préparées de façon à tirer vraiment la valeur de chacun des invités au profit de l'audience. Donc, respect pour ça, parce que persévérer dans un environnement où tu ne monétises pas encore ce podcast, tu fais tout toute seule, mais tu as la croyance que tu peux y arriver, que tu vas y arriver, tu sais pourquoi tu le fais, et en plus, à une époque où le podcast n'était pas aussi à la mode qu'il est aujourd'hui, bravo, c'est vraiment top. Et justement, donc tu lances ce podcast relativement tôt, c'est finalement la première pierre de ce qui deviendra un écosystème complet que tu vas créer. Comment tu avais envisagé et développé la suite? Comment s'est faite cette expansion vers d'autres branches, d'autres possibilités et l'écosystème que tu as créé aujourd'hui? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce que c'était déjà pensé de prime abord? Si pas, qu'est-ce qui t'a peut-être donné le ou les déclics où tu t'es dit « Ah tiens, je vais créer ça, je vais faire ci et je vais faire ça ». Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
Alors, j'avais déjà une vision, c'est-à-dire que je me suis dit, le podcast m'aide à inspirer les femmes, ça leur donne des exemples concrets de femmes qui ont réussi à transformer leur vie, à faire des choix complètement dingues, qui ont fait des choix de vie atypiques. Et là, on parle de femmes, si tu veux, à l'époque, j'interviewais quand même la plupart du temps des inconnues. Et du coup, ça leur permettait vraiment de prendre conscience, ok, bah, si elle l'a fait, moi aussi je peux le faire. La deuxième étape, en fait, je me suis dit, maintenant que j'ai le podcast, que je leur donne de l'inspiration, il faut que je leur donne de vraies méthodes, de vraies clés. Et donc, c'est pour ça que moi, je me suis formée en parallèle de ça, au développement personnel. C'est aussi le développement personnel qui m'a aidé à sortir de mon burn-out, de cet état psychologique, etc. Et je me suis dit, il va falloir que je construise une formation qui puisse justement leur donner les clés pour elles aussi s'émanciper du salariat, faire l'introspection dont elles ont besoin pour apprendre à se connaître, pour se découvrir, pour adopter le bon état d'esprit, dépasser leurs peurs, leurs blocages, etc. Mais aussi faire cette exploration professionnelle dont elles ont besoin pour trouver quel est le projet, vraiment le projet fait pour elles, le bon projet. Et ensuite, l'étape de comment est-ce que je passe à l'action, comment est-ce que j'élabore mon projet, comment est-ce que je crée un plan d'action pour justement donner vie à mon projet. Au début, je te rassure, c'était pas aussi bien ficelé, hein, c'était au tout début, j'ai fait tellement d'erreurs, j'ai fait énormément d'erreurs au début, j'étais complètement à la ramasse, pour être très honnête, mais du coup, j'avais cette vision-là. Je leur donne l'inspiration, maintenant, il faut que je leur donne les clés. Ensuite, j'avais déjà, si tu veux, ce désir vraiment hyper profond d'organiser des événements. Je me suis dit, il va falloir que je rassemble cette communauté, j'ai envie d'inspirer, j'ai envie de prendre le micro, j'ai envie de donner des conférences, j'ai envie de recevoir mes invités lors d'événements physiques. Donc je me suis dit, il faut que je trouve le moyen d'intégrer ça à mon écosystème. Et ensuite, je me suis dit, toutes ces personnes qui vont passer dans la Locomotive Academy, elles vont lancer des projets, des side projects, donc elles vont ensuite avoir besoin de se former un petit peu plus en profondeur pour justement savoir quelles sont les clés pour développer un business. Et c'est pour ça que j'ai créé la Locomotive Business. Donc si tu veux, ma priorité dès le départ, c'était vraiment de créer un écosystème. Je voulais pas du tout fonctionner, tu sais, ce fonctionnement de une offre, un tunnel de vente, basta. Pas du tout. Moi, je voulais vraiment créer une communauté ultra engagée et créer tout un écosystème, même si j'allais perdre en vitesse, si tu veux, comparé à d'autres entrepreneurs ou entrepreneuses. Mais je voulais créer un écosystème qui s'auto-alimente et surtout qui perdure dans le futur.
Hyper clair, très sensé. Alors, plusieurs choses. La première, tu évoques tes événements. Ces événements, ils ont lieu à Paris.
Ça dépend. J'en fais souvent au mois de janvier, je le fais à Paris et ensuite au mois de juin, je le fais dans le sud de la France puisque je vis dans le sud de la France.
Ok, excellent. Je posais la question pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être aimeraient participer à l'un de ces événements si c'est public, je ne sais pas. Donc c'est vraiment trop chouette, trop chouette. Et deuxième point, tu as rapidement survolé le sujet, mais je ne vais pas te laisser le survoler. Tu as évoqué justement toutes ces erreurs que tu as pu commettre. Nous, ce qu'on adore, c'est justement comprendre les erreurs parce que soit on gagne, soit on apprend. quand on raconte l'histoire où tout s'est bien passé, c'est pas forcément hyper intéressant ou tout du moins hyper aidant pour celles et ceux qui nous écoutent. Quelles sont là ou les grandes erreurs que tu peux nous raconter et où ça t'a peut-être coûté le plus en temps, en énergie ou en argent, mais où tu as appris le plus et qui a fait la personne que tu es?
Ouais. Donc la première erreur que j'ai faite, c'est que j'ai lancé, si tu veux, donc la première formation que j'ai lancée, qui s'appelait déjà la Locomotive Academy. Quoique non, c'est pas vrai en fait, elle s'appelait même pas la Locomotive Academy. Bref, c'était « Deviens la locomotive de ta vie », je crois, puisque le podcast s'appelle « Les locomotives ». Et je lance cette formation en me disant, tu vois, donc je fais un business plan. Et dans ce business plan, c'était super, tout était génial sur ce business plan. Je devais bien gagner ma vie, je devais vendre beaucoup de formations, et cette formation, roulement de tambour, coûtait 69 euros.
Wow.
Et donc, j'étais persuadée que j'allais vendre des centaines de formations par mois, tu vois. Et donc, évidemment, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Je fais mon lancement, en plus, un peu, enfin, vite fait. Je ne savais pas comment il fallait faire un lancement. Je ne savais pas qu'il fallait faire des pré-lancements. Enfin, bref, je n'avais aucune idée des stratégies. Donc, je fais ce lancement et je fais, je crois, je sais pas, 20 ventes. Et là, je me dis, merde, du coup, ça ne va pas fonctionner comme ça. Donc là, déjà, ça a été très compliqué, puisque je me suis... Enfin, très compliqué, non, mais si tu veux, j'ai tout de suite compris que ça n'allait pas et que je n'allais pas du tout pouvoir en vivre. Du coup, la première chose que je me suis dit, ok, Sandra, là, c'est n'importe quoi, il va falloir que tu te formes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à investir sur moi et donc sur mon business. Et je me suis formée. J'ai fait une formation sur Instagram, je me suis fait former par... j'ai fait un accompagnement business pour justement développer mon business. J'ai fait une formation de marketing digital. Je me suis dit, il est hors de question que je reste, si tu veux, dans cette situation-là. Il faut que je monte en compétences, il faut que je m'améliore, il faut que je comprenne quelles sont les bonnes stratégies. Donc, j'ai tout de suite compris que quand tu avais une petite communauté, parce qu'au début, j'avais une toute petite communauté, c'était de vendre des offres à étiquette, donc à plus de 1000 euros. Cependant, j'ai mis beaucoup de temps, si tu veux, à augmenter mes prix. J'avais beaucoup de mal avec ça, avec la vente, avec le fait de poser un prix sur un service, sur une offre. J'étais limite gênée, si tu veux, de vendre quelque chose. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à augmenter mes prix, à dépasser la fameuse barre des 1000 euros. Ça a été très long pour moi. Donc, voilà la grosse erreur que j'ai fait au début. Je pense que c'est celle qui m'a coûté le plus. Et ensuite, une autre erreur qui peut être intéressante, qui m'a, on va dire, j'ai pas perdu une année, mais on va dire que 2022, si tu veux, c'était ma première année en tant qu'entrepreneuse. Et elle était, comment dire, elle n'était pas, je ne sais pas comment dire ça, c'était pas la plus, elle n'a pas vraiment porté ses fruits comme j'aurais aimé qu'elle porte ses fruits, puisqu'en fait, je passais, je pense, 80% de mon temps à faire des choses qui ne me rapportaient pas d'argent. Et du coup, c'était un vrai problème et j'ai eu une vraie prise de conscience. Je me suis dit, mais en fait, ça ne va pas du tout, je ne peux pas continuer comme ça, puisque je passe mon temps à faire certes des choses que j'aime, mais je n'ai pas du tout le bon fonctionnement. Donc là, j'ai remis tout mon fonctionnement et toute l'organisation en question.
Ok, très clair. Justement, on va en parler de l'organisation, du fonctionnement. C'est une grande question que beaucoup se posent, hommes ou femmes. Mais avant ça, tu as évoqué un sujet extrêmement intéressant auquel font face la plupart des entrepreneurs et que j'identifie depuis maintenant des années aussi chez les entrepreneurs avec un E ou les entrepreneuses. Je ne sais pas, d'ailleurs, on dit entrepreneur avec un E ou entrepreneuse te concernant?
Écoute, moi, j'aime bien dire entrepreneur.
C'est un grand débat.
Ouais, moi, je pense qu'on fait comme on veut, mais j'aime bien dire entrepreneuse pour appuyer encore plus sur le côté féminin.
Ok, très clair. Dans cet épisode, voilà. On dira entrepreneuse. et tu vois, justement, à l'époque, donc quand je te dis l'époque, c'était peut-être 2018-2019, on identifiait que dans notre pipe client, sur peut-être un millier de clients, on avait à peine, allez, je ne vais pas te dire de bêtises, mais 5% de femmes dans nos clients. Puis on a dû mettre en place justement différentes actions pour parler à davantage aux femmes. J'avais une communication très très masculine, très feu, très rouge, très passage à l'action, très cash, et du coup, bah, naturellement, ça parlait moins. Pour monter aujourd'hui à peu près 40%, 30-40% selon les produits de public féminin au sein de nos programmes. Mais ce que j'identifie souvent, en particulier chez les femmes, notamment dans le métier de l'accompagnement, c'est le mal à vendre, notamment le mal à vendre cher, une certaine gêne du fait de vendre cher et d'augmenter ses prix malgré la valeur certaine qu'elles délivrent au travers de leurs produits. Chose à laquelle tu as fait face, tu l'as évoqué il y a un instant. Selon toi, c'est dû à quoi, d'une part, et d'autre part, qu'est-ce que tu as mis en place pour commencer à accepter de vendre au juste prix ?
Alors déjà, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que les femmes ont plus de mal à mettre le bon prix sur leur service. Et ça, c'est vraiment, je pense, très féminin de base. Je pense qu'on a besoin, dans tout ce qu'on fait, même quand on postule à un job, tu vois, d'être certaine à 90% d'avoir les bonnes compétences. Alors qu'il y a des études qui ont été prouvées, d'ailleurs, j'avais fait un post LinkedIn à ce sujet, alors que les hommes, tu vois, ils vont avoir besoin peut-être de deux fois moins. Par exemple, ils vont regarder la fiche de poste, ils vont se dire, OK, j'ai peut-être, je sais pas, un tiers des compétences demandées sur ce poste-là, mais je vais postuler quand même, ce que les femmes ne feraient jamais. Déjà, je pense qu'il y a déjà naturellement ce truc-là. Ensuite, moi, ça a été un gros travail sur moi. Je pense que déjà, de base, j'avais pas du tout le bon rapport à l'argent. Alors, est-ce que ça aussi, c'est plus féminin que masculin, peut-être ? L'argent, tu vois, je m'étais dit, bon, l'argent, c'est pas que c'est mal, mais je pense que je l'associais un petit peu au mal, de par, tu vois, peut-être mon éducation ou tout simplement de ce qu'on peut entendre hein, depuis toute petite. Et du coup, j'avais beaucoup de mal, j'avais l'impression d'être une voleuse, en fait. Je me suis dit, j'ai l'impression de voler les gens, alors que j'étais en train de mettre énormément de valeur dans ma formation, qu'on changeait déjà des vies, qu'on obtenait des résultats de malade. Mais j'avais peur de... Ouais, je sais pas, j'avais peur de gêner les gens, je voulais pas leur demander trop. J'ai eu beaucoup de mal avec ça, j'ai eu beaucoup de mal. Et donc, encore une fois, je me suis dit, OK, il faut que je remédie à ça, il faut que je fasse en sorte d'être à l'aise, en fait, d'être OK avec le fait de proposer des tarifs qui sont en plus hyper cohérents avec ce qu'on propose, avec ce qu'on vend. Je ne vole personne, c'est normal, c'est normal de gagner ma vie avec tout ce que j'apporte, tout ce que je fais, tout ce qu'on met en place pour toute notre communauté, etc. Et donc, je suis passée par cette étape où j'ai lu énormément de livres sur le money mindset, sur le fait de percevoir l'argent autrement, comme une énergie. J'ai dû réapprendre, si tu veux, et casser un petit peu, détruire un petit peu ces schémas et la manière dont j'associais l'argent. Donc, je pense que ça a été ça vraiment qui m'a le plus aidée.
Ok. Donc, le meilleur conseil que tu donnerais à une femme qui nous écoute et qui peut-être n'ose pas augmenter ses prix alors qu'elle sait que c'est une problématique à laquelle elle fait face, c'est quoi ?
C'est ça, c'est de revoir son rapport à l'argent. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux lui donner. Et qu'il faut déconstruire du coup tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a appris par rapport à l'argent.
Ouais, je te rejoins. Tu évoquais un autre sujet. En 2022, le gros problème, c'était l'organisation. Aujourd'hui, on est en 2024. Est-ce que c'est toujours le cas ? Et si pas, qu'est-ce que tu as mis en place pour l'améliorer ?
Alors, en 2022, j'avais pas vraiment de problème d'organisation, on va dire, en termes de structure d'entreprise, puisque j'en avais pas. J'étais toute seule. Du coup, c'était plus moi, ma manière de fonctionner et ma manière de gérer mes priorités. Ensuite, il y a eu 2023, où ça a été une année, tout a explosé, en fait, tout simplement. Et donc là, oui, effectivement, je me suis retrouvée en fin d'année 2023, face à cette problématique où tu te dis, OK, ma boîte est en hyper-croissance, super. Par contre, ça ne va pas le faire si je ne structure pas ma boîte, que je ne recrute pas les bonnes personnes et que je n'organise pas ma boîte de la bonne manière. Et ça, pour moi, tu vois, ça fait que 2 ans hein, que j'ai commencé l'aventure, mais ça a été vraiment l'étape la plus difficile pour moi. Je ne sais pas pourquoi, hein, je ne sais pas si c'est normal, si tous les entrepreneurs ressentent ça, mais j'ai eu énormément de mal à organiser mon entreprise, à structurer et à faire en sorte de recruter les bonnes personnes, de les former correctement. En plus de ça, de tout gérer en parallèle. J'ai trouvé que c'était extrêmement, extrêmement difficile. Là, c'est super. On est arrivé au bout de quelques mois à une super organisation qui, je pense, va super bien tourner pour cette année 2024 et accueillir, si tu veux, la croissance qu'on attend encore pour 2024. Mais par contre, ça a été pour moi l'étape la plus challengeante depuis le début de mon aventure.
Recruter, structurer son entreprise et notamment une équipe, c'est un des challenges les plus complexes à résoudre pour la plupart des entrepreneurs, notamment réussir à recruter les bonnes personnes, puis créer une bonne culture d'entreprise, les former, les garder, les rémunérer de bonne façon, etc., les incentiver. Tu évoques le fait que ça a été aussi challengeant pour toi, tout en ayant réussi aujourd'hui à constituer une équipe qui te paraît solide, fiable et apte à accueillir la croissance future. C'est quoi le conseil que tu partagerais à quelqu'un qui est dans cette phase, c'est-à-dire fais face à de la croissance, a conscience que cette personne est obligée de s'entourer de personnes compétentes pour pouvoir accueillir la croissance future, mais ne sait pas forcément comment s'y prendre ou a peur de commettre des erreurs qui pourraient lui coûter cher.
Alors, je pense déjà, le premier conseil, c'est d'anticiper les recrutements. C'est-à-dire que même si je suis arrivée en fin d'année 2023 en me disant, OK, il va falloir vraiment que je structure ma boîte sérieusement. Si tu veux, j'avais entre guillemets déjà repéré les talents. C'est un petit peu bizarre de dire ça, mais oui, j'avais déjà un petit peu repéré les personnes. Et je m'étais dit, bah, OK, cette personne-là pourra être référente de ce pôle-là, cette personne-là pourra collaborer avec cette personne-là. Bref, j'avais déjà une vision de comment est-ce que je voulais structurer mon entreprise. Et je pense que c'est hyper important, surtout si on a de fortes ambitions et si on s'apprête à être dans une année qui va être vraiment croissante, quoi. Il faut, je pense, avoir déjà pensé l'organisation de sa future structure. Ça, pour moi, c'est un premier conseil. Ensuite, pour ma part, si jamais les personnes sont dans ce cas-là, je suis passée vraiment dans cette espèce de brouillard où tout ne sera pas forcément parfait au début. Et ça, c'est dur à accepter parce qu'on se dit, voilà, j'ai prévu toute cette organisation. Et en fait, c'est avoir la capacité de se dire que c'est OK si tu as prévu cette organisation, tu commences à la mettre en place et que si finalement, tu vas devoir la revoir, peut-être même te séparer de certaines personnes, peut-être réorganiser autrement, réorganiser les pôles autrement. Et ça aussi, c'est OK. Donc, je ne sais pas si tout le monde passe par cette espèce de brouillard, mais j'ai l'impression que c'est un peu le process et c'est normal. Et il faut se dire qu'au bout d'un moment, on trouvera le bon fonctionnement. Et c'est aussi en trouvant les bonnes personnes qu'on trouve, je pense, le bon fonctionnement.
Complètement. Un autre sujet que je ressens, et contredis-moi si je me trompe, mais certes, ça fait plus ou moins 2 ans donc, que tu as lancé, 2-3 ans que tu as lancé cette activité, mais j'ai l'impression que chacune des actions que tu mets en place, elle a pour but d'aboutir à aider la mission que tu as. Et il y a tout un écosystème qui se construit autour de ça. Et surtout, tu prends ton temps, mais de manière intelligente, le tout en étant finalement, malgré toi et ce succès, finalement, dans une sorte d'hypercroissance. Donc, c'est un peu contradictoire de vouloir construire quelque chose de solide de manière réfléchie, presque lente, entre guillemets, j'emploierais plus le terme méthodique, que l'an en testant, en itérant et en construisant et en consolidant chacun des éléments de ton écosystème pour le déployer pleinement et sereinement. Est-ce que je me trompe dans ma grille de lecture ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'influence dans le fait de construire de manière intelligente et solide et durable ton et tes entreprises par rapport à la mission que tu défends au quotidien?
Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses qui m'ont influencé à avoir cette vision-là. Je pense que déjà, la première chose, c'est que quand tu sors d'un burn-out, moi, j'avais, si tu veux, j'ai toujours eu ce tempérament. Quand j'étais salariée, du coup, j'avais un tempérament très fort. Je voulais toujours monter plus haut, gérer encore plus d'équipes, grimper, monter les paliers, etc. Mais quand tu sors d'un burn-out, forcément, ta vision de la vie a changé. Et du coup, tu as le choix de recommencer de cette même manière et te griller les ailes puisque tu as un tempérament de charbonneur et du coup tu vas pas du tout poser de limites dans ta vie et tu vas potentiellement exploser en vol. Donc ma première priorité c'était vraiment de prendre soin de moi et de surtout pas me brûler les ailes dès le départ. Il y avait déjà ça. Ensuite, j'avais, si tu veux, une vision très claire de la chef d'entreprise que je voulais devenir et je voulais vraiment créer un truc sérieux avec une mission sérieuse, un écosystème qui fasse sens, porter une mission qui fasse sens, créer une communauté qui fasse sens et qui comprenne d'où je viens, ce que j'ai traversé et pourquoi du coup je veux sincèrement les aider. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, sur ce marché de l'infoprenariat. Il y a beaucoup de personnes qui vendent des formations et il y a beaucoup de personnes qui vendent des formations qui apportent pas énormément de valeur, sans vouloir dénigrer le travail de personne, mais c'est la réalité. Et je voulais surtout pas qu'on m'associe à ça. Et je pense qu'une croissance, il y a certaines personnes qui vont peut-être laisser paraître qu'ils ont une croissance rapide, mais du coup qui s'associent aux mauvaises choses, aux mauvaises raisons. Et je ne voulais surtout pas être associée à ça.
Ok, j'entends, je comprends. Aujourd'hui, vous êtes combien dans ton équipe?
Alors, on est une vingtaine aujourd'hui dans mon équipe, puisqu'on a aussi, tu sais, des ambassadrices, puisqu'on fonctionne avec des challenges gratuits, je sais pas si ça te parle.
Complètement.
Voilà, donc on est une vingtaine.
Ok, excellent. Donc majoritairement, j'imagine, des prestataires de services, mid-time, qui vont venir de manière éphémère.
Ouais.
Ok, très clair. En parallèle de cet écosystème, tu as commencé également au fur et à mesure à prendre beaucoup plus au sérieux le personal branding également, à être de plus en plus présente sur tes réseaux sociaux, à participer à différents événements. Alors, c'est une question dont j'ai déjà la réponse, mais j'aime appuyer sur l'importance du personal branding. Est-ce que finalement tu as vu une différence sur ton business? Et selon toi, dans quelle mesure, et c'est ça la vraie question, le personal branding a de l'influence pour le développement d'un business tel que le tien, mais pas que.
Oui, alors ben, clairement, hein, le personal branding, moi, c'est vraiment au cœur de ma stratégie, hein, pour être vraiment totalement transparente. En plus, c'est quelque chose que j'adore faire de manière naturelle, tu vois, j'ai pas besoin de me former ou quoi que ce soit. Oui, absolument que ça a eu un impact énorme. D'ailleurs, moi j'ai fait un petit peu entre guillemets ce pivot, c'est-à-dire qu'au début, si tu veux, j'étais vraiment cachée derrière les locomotives, t'avais un logo sur mon profil, enfin tout était les locomotives et Sandra apparaissait de temps en temps, mais vraiment très rarement. Et ensuite, j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse ce pivot et que je passe justement devant ma marque et non pas le contraire. Et ça a tout changé, clairement, ça a tout changé, ça a pris tout son sens. Les personnes ont pu davantage apprendre à me connaître, apprendre à m'aimer, à comprendre comment je fonctionne, quel est mon quotidien, quelles sont mes idées, mes opinions. Et je pense que ça permet vraiment à la communauté de se rapprocher encore plus de toi. Et du coup, ça leur donne encore plus envie de voir ce que tu proposes et puis surtout d'en faire partie, en fait, d'en faire partie intégrante et de passer par cette formation, de se dire bah, moi aussi, je veux voir ce que ça fait. Et ensuite, maintenant, tu vois, aujourd'hui, les élèves qui sont passés par la Locomotive Academy, elles ont encore plus envie de continuer l'aventure avec nous et de devenir ambassadrices. Si tu veux, c'est plus que... Ouais, ça permet vraiment, je pense, de faire partie intégrante de l'aventure et de faire partie de la communauté, mais vraiment pas juste en tant qu'une personne qui va être derrière son écran à mettre des commentaires sur des posts Instagram. Là, tu as vraiment limite l'impression de faire partie des locomotives, en fait.
Justement, compte tenu du fait qu'on a tous les deux conscience, et j'imagine celles de ceux qui nous écoutent également, de l'importance du personal branding, dans ton cas précis, quelles ont été les différentes étapes que tu as suivies pour développer ce personal branding? Est-ce que tu as une stratégie précise pour intensifier finalement ta présence sur les réseaux en général ou sur les tiens en particulier? Pourquoi je te pose cette question? C'est que beaucoup de personnes ont conscience de l'importance de certaines choses, mais ne savent pas forcément comment les déployer et les adapter à eux pour pouvoir en tirer profit. Et c'est souvent le cas notamment du personal branding. Quelle stratégie je suis, comment je démarre, qu'est-ce que je ferai comme contenu, qu'est-ce que je fais concrètement, sur quel réseau je dois me positionner, quel message je dois véhiculer, quelles sont les erreurs que peut-être certains ou certaines ont fait et que je devrais éviter de faire. Dans ton cas, quelles sont les réponses à ces différentes questions?
Je ne sais pas si j'ai eu une stratégie bien définie, puisque vraiment, je ne sais pas si tu as perçu ça dans le parcours entrepreneurial que je t'ai donné, mais grosso modo, moi, on va dire mon plus gros défaut de base, c'est que je n'ai pas de stratégie. C'est mon plus gros problème, qui, si tu veux, je règle petit à petit, puisqu'aujourd'hui, tu es obligé d'avoir une stratégie quand tu passes certains paliers, certains niveaux. Mais du coup, quand j'ai commencé à développer mon personal branding, la seule chose que je me suis dit, c'est « Ok Sandra, maintenant, il est temps que tu t'affirmes et surtout que tu t'assumes. » En fait, je pense que c'était ça le plus gros problème, c'est de s'assumer en fait et de se dire « Ok, je vais prendre la parole et je vais assumer mes propos, je vais assumer mes opinions et je ne vais pas en avoir peur, je ne vais pas avoir peur du fait de m'assumer. » Ça a été la première chose. Ensuite, moi, le plus important pour moi, je pense qu'il faut savoir ce que tu veux véhiculer. Moi, ce que je voulais véhiculer, c'est de la bienveillance, de la motivation, de l'inspiration, mais surtout de la confiance. Je pense qu'aujourd'hui, ma communauté a vraiment confiance en moi parce qu'elle sait qu'elle peut. Je pense que je suis totalement transparente. Tu vois, moi, je suis un livre ouvert. Il n'y a rien que je cache. Je suis vraiment nature peinture et je reste très authentique. Je ne joue pas un rôle, en fait. Je n'ai jamais joué un rôle. Que tu me vois en conférence à mes talks, ou je sais pas, interviewer des personnalités publiques hyper inspirantes, hyper influentes, je suis toujours la même personne. Je ne joue pas un jeu. Même dans mes podcasts solo, enfin, je suis très transparente, je raconte vraiment les choses avec beaucoup d'authenticité. Donc ça, pour moi, c'était ma priorité. Ensuite, je me suis dit, instinctivement, je vais continuer de développer Instagram puisque c'est là vraiment que se trouve ma cible, mon persona. Ensuite, j'ai commencé à développer LinkedIn. J'avais l'objectif de me dire, OK, il faut aussi que j'inspire confiance sur LinkedIn parce que ça rajoute un petit peu plus, je trouve, de crédibilité à ton profil, on va dire, en tant qu'experte dans un domaine. Donc ça me semblait aussi très important de développer LinkedIn. Et ça permet aussi de générer de bonnes opportunités. LinkedIn t'apporte de belles opportunités sur un plateau. Donc ça a été vraiment, voilà, tu vois, j'avais pas vraiment de stratégie. En tout cas, je choisis les choses de manière très instinctive. Tu vois, que ça soit une collaboration avec une marque ou de faire une conférence quelque part, d'être invitée à une conférence. Là, on m'a aussi proposé, pendant quelques mois, j'ai été animatrice sur l'émission, comment ça s'appelle, mince, tu vois, j'avais même perdu le nom de l'émission, ça va le faire, pardon, chez TV Monaco. Voilà, dès que je peux accepter quelque chose qui peut nourrir mon personal branding dans le bon sens, j'y vais. Par contre, si intuitivement parlant, je le sens pas, que ça va pas ça va pas avec moi, ça va pas avec mes valeurs, je le fais pas. C'est plutôt, je pense qu'il faut apprendre à se connaître en fait. Je pense que c'est ça. Je pense que la priorité, c'est d'apprendre à te connaître, savoir qui tu es, quelles sont tes valeurs, pour ensuite développer un personal branding qui soit en lien avec toi. Parce que si c'est pas le cas, je pense que ça se ressent vachement et du coup, les gens adhèrent moins.
Ouais, complètement. Donc, apprendre à se connaître, faire preuve d'authenticité, véhiculer son message et pas se poser finalement de questions sur le format, la forme et autres, mais se concentrer sur le fond, aligné avec les points qu'on a cités précédemment.
Ouais, et je pense qu'on évolue dans ce sens de toute façon dans un marketing très authentique. Donc, je pense que ça ne sert à rien de chercher à avoir 25 000 stratégies.
Complètement. Toujours dans cette lignée d'impact et de me baser aussi sur ton expertise hein, qui est d'accompagner les femmes, parmi les femmes que tu as pu accompagner, que tu as rencontrées, est-ce que tu as identifié des peurs récurrentes qui les empêchent souvent de franchir le pas ou d'avancer? Et surtout, si oui, comment est-ce que tu conseilles de les surmonter pour oser entreprendre, pour oser se réinventer, pour oser s'affirmer et aller donner vie à leurs ambitions?
Oui, alors bah, c'est marrant que tu parles de ça. Le dernier épisode de podcast que j'ai sorti, parce que je fais aussi des épisodes solo, c'est justement sur les quatre peurs qui t'empêchent de réussir. Et bien sûr, tu as la peur de l'échec, la peur du regard des autres, tu as même la peur de réussir. Il y a plusieurs peurs qui reviennent très souvent. Et vraiment, bah, nous, celle qui revient en tout cas le plus souvent chez nos élèves, chez nos clientes, c'est vraiment la peur de l'échec en premier plan, clairement. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est vraiment c'est un peu comme l'argent, tu vois, c'est un peu comme ton rapport à l'argent. Il faut revoir ton rapport à l'échec, il faut redéfinir ton rapport à l'échec, redéfinir ton rapport au succès et bien prendre conscience que l'échec fait partie du jeu, fait partie du chemin et avoir plutôt un rapport apaisé avec l'échec et non pas être morte de trouille à l'idée d'échouer puisque de toute façon, tu vas échouer. Tu vas forcément échouer, ça ne veut pas dire que ton projet va échouer, mais ça veut dire que bien sûr que tu vas rencontrer des échecs. C'est inévitable et je pense que quand on entreprend, il faut vraiment, vraiment, vraiment comprendre ça, que si tu veux toucher du doigt le succès, tu vas passer par des échecs. Et du coup, moi, j'invite vraiment les personnes. Moi, je suis très fan, tu vois, des livres autobiographiques, des séries autobiographiques. Enfin, moi, j'adore ça. Et je trouve que c'est superbe parce que ça permet vraiment de voir que ben, toutes les personnes, les entrepreneurs qui ont extrêmement réussi, les célébrités qui ont extrêmement réussi, etc., regarde son parcours, en fait. Lis son livre, regarde son parcours et tu verras tous les échecs qu'elle a rencontrés. Et qu'en fait, c'est au bout de quelques années qu'elle a percé ou qu'elle s'est relevée, qu'elle a persévéré, voilà. Donc, je pense que c'est hyper intéressant de revoir son rapport à l'échec. Et surtout, c'est de se dire, si jamais j'ai un échec, parce que moi, des échecs, j'en ai connu plein. On en a parlé tout à l'heure de mon premier échec, enfin de la première erreur que j'ai faite. Mais j'ai aussi connu des échecs pendant des lancements où j'ai complètement foiré mes lancements. Et c'est OK. Le truc, c'est qu'il faut se dire, qu'est-ce que je vais tirer de cet échec? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi est-ce que j'ai échoué? Et c'est un petit peu faire la liste de toutes ces choses qui ont fait que ça n'a pas fonctionné comme j'aurais aimé que ça fonctionne. Pourquoi est-ce que j'ai pas atteint mon objectif? Mais surtout, qu'est-ce que je peux faire? Quelles actions je peux mettre en place pour justement atteindre ces objectifs et ne pas revivre, retomber exactement dans le même schéma et échouer de nouveau? Non, il faut être en capacité de tirer les leçons et de se dire, OK, j'ai été mauvaise, mais c'est pas grave parce que je vais faire mieux, je vais m'améliorer. Et je pense que c'est important, c'est vraiment la priorité. Le rapport à l'échec, pour moi, il est ultra important, tout comme le rapport à l'argent, d'ailleurs. Je pense que c'est deux choses qui sont extrêmement importantes quand tu es entrepreneur. Et ensuite, pour rebondir donc, sur peut-être une deuxième peur, on ne va pas toutes les faire, mais donc la peur du regard des autres, la peur d'être jugé, ça aussi, il faut vraiment s'en défaire. Je pense qu'il faut partir du principe que la vie que tu es en train de te construire, le projet que tu es en train de construire, il est pour toi, il n'est pas pour les autres. Peu importe ce que vont dire les autres, moi aussi on va sûrement juger quand j'ai commencé à faire mes premières stories Instagram, etc. Mais au final, qu'est-ce que tu t'en fous? Garde vraiment, concentre-toi sur ton objectif, sur ta vision long terme, où est-ce que tu veux arriver. Parce que ça, c'est juste le moyen d'arriver à tes objectifs. Et puis le reste, on s'en fout, les autres, on s'en fout. Ce que je dis aussi beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur du regard, de leur entourage, mais aussi de leurs parents. Il ne faut pas oublier qu'un jour, c'est pas franchement chouette à dire, mais c'est la vérité, un jour, nos parents ne seront plus là et on sera tout seul dans notre slip avec la vie qu'on s'est créée. Donc c'est hyper important d'être en phase et d'être aligné avec la vie qu'on est en train de se créer.
Complètement. Tu évoques notamment la peur de l'échec, mais il y a aussi la peur de réussir, la peur de se dépasser, notamment des sentiments que tu as connus personnellement. Quel conseil tu donnerais aux femmes qui font face justement à ces mêmes peurs que toi tu avais à l'époque, mais qu'elles ont aujourd'hui ?
Ouais, donc moi effectivement j'avais la peur de réussir. Alors, je l'ai compris pas tout de suite, hein. Je l'ai compris parce qu'on me l'a fait comprendre. Mais au début, j'avais la peur de réussir et du coup, c'est ce qui a fait, si tu veux, que cette année 2022 était un petit peu chill, quoi. J'ai fait un lancement, j'étais contente, c'est bon. Et je me suis dit, bon, c'est bon, c'est bien là pour quelques mois. Et en fait, j'avais extrêmement peur d'être dépassée par les choses, d'être complètement, peut-être en surmenage de nouveau, de ne pas pouvoir gérer cette croissance. J'avais peur de réussir. C'est vrai que ça, c'était... Je m'auto-sabotais en fait, je m'auto-sabotais complètement. Je faisais vraiment le plus simple, le plus facile, entre guillemets, on va dire. Mais oui, ça m'a mis de gros bâtons dans les roues. Et pour dépasser cette peur de réussir, déjà, j'ai envie de dire que c'est une bonne peur. C'est-à-dire que si jamais tu as ce problème-là et que tu te retrouves avec un superbe succès, c'est top. Tu mettras en place les actions nécessaires pour accueillir ce succès et cette croissance. Mais je pense qu'au contraire, il ne faut pas avoir peur de réussir. Il faut avoir justement cette envie de réussir et peut-être même, comment dire, avoir l'audace, si tu veux, d'avoir une vision encore plus ambitieuse que ce que tu as aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne, en tout cas. Avant, je me limitais vachement, tu vois, en termes de vision, de chiffre d'affaires, etc. Je me limitais, je me disais, non, il faut quand même, faut pas que j'en demande trop, quand même, tu vois, faut pas que j'abuse, quand même, ce serait exagéré, etc. Ça aussi, c'est peut-être très féminin, mais maintenant, c'est tout le contraire. En fait, je me dis, en fait, mais vise la lune, au pire, tu tombes dans les étoiles, mais ne te limite plus, parce qu'en fait, notre pire problème, notre pire limite, clairement, c'est nous-mêmes. On se met tellement de bâtons dans les roues et ça, c'est un vrai problème.
Qu'est-ce qui a créé ce déclic entre le moment où tu te restreins finalement dans ta vision et dans ta capacité à croire en toi et en ta capacité à réaliser des grandes choses et où tu switches complètement et tu te dis vise la lune, au pire, tu tombes dans les étoiles.
Je pense que la vision que j'avais des locomotives, de l'écosystème, de la communauté que je voulais créer, n'était pas du tout harmonieuse avec ma vision business. Si tu veux, il y avait un problème, il y avait un décalage, donc ça faisait pas sens. Donc en fait, je me suis dit, c'est pas possible, si tu continues comme ça, comment est-ce que tu veux inspirer des milliers de femmes si tes actions, d'un point de vue business, ne vont pas du tout dans ce sens-là, en fait. Ça n'arrivera pas. Tes actions ne sont pas du tout en phase avec ce que tu veux atteindre. Et en fait, j'ai eu ce déclic-là parce que j'ai tout de suite compris que c'était pas du tout les bonnes actions, que les actions que je mettais en place n'étaient pas du tout cohérentes avec la vision que j'avais. Et au bout d'un moment, tu t'en rends compte. Je pense que c'est après cette première année d'entrepreneuriat où j'ai fait le point et je me suis dit, c'est quand même pas terrible, et je me suis posé la question de pourquoi c'est pas terrible, tu vois. Je me suis dit, c'est pas que j'ai rien fait, mais j'ai pas fait ce qu'il fallait que je fasse, j'ai pas fait les bonnes actions, en fait, tout simplement.
Un autre sujet, maintenant que tu as développé une certaine visibilité, un personal branding fort, que tu incarnes pour beaucoup de femmes, notamment la réussite et l'atteinte d'un objectif et d'une quête qu'elles veulent mener également à leur tour. Est-ce que tu as en tête ou tu as vécu peut-être des croyances ou des stéréotypes particuliers à l'égard des femmes entrepreneuses que tu as dû affronter personnellement ou que tu as vu autour de toi ?
Non. Tu sais quoi ? Bizarrement, j'ai vu pas mal de femmes en parler. Et au contraire, moi, je trouve que j'ai été prise plutôt très au sérieux, en fait, dès le départ. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je n'ai pas eu de problème où je me suis sentie... pas légitime d'eux ou mal, peut-être pas prise, j'ai pas eu cette sensation-là, j'ai toujours l'impression d'avoir été pris au sérieux, j'ai pas eu de remarques, j'ai eu plutôt que des encouragements, j'ai pas eu ce truc-là. Alors une fois ça m'est arrivé, mais c'est vraiment anecdotique, où on m'a dit un truc du style « mais ça va quand même ». T'arrives à vendre tes formations, t'en vends au moins une par mois. Et donc là, j'ai explosé de rire et j'ai dit oui, ça ça va très bien. J'ai eu juste ça, mais vraiment, comme je te le dis, c'est vraiment anecdotique. Je me suis pas retrouvée dans des situations qui m'ont mis mal à l'aise.
Ouais. Ouais, effectivement, je pose la question parce que souvent, c'est un sujet qu'on voit passer sur les réseaux par d'autres femmes qui réussissent très bien et qui ont aussi un personal branding et qui créent un personal branding. Après, il y a deux mondes. Hein. C'est peut-être celui de je crée un contenu pour qu'il soit vu, qu'il soit viral et qu'il parle à un maximum de gens par rapport justement à des stéréotypes, mais est-ce que c'est la réalité ? Et puis, bien sûr, il y a les personnes qui le vivent réellement, d'où ma question. Un autre sujet, un autre point qui est un point qui est hyper intéressant et qui touche tout le monde, c'est finalement le sujet de l'équilibre. Dans ton cas, tu as eu un parcours qui était marqué par une lutte notamment contre l'anxiété généralisée suite à un burn-out. Comment est-ce que tu gères le fait de te poser des limites ? Est-ce que tu as appris aujourd'hui à te poser des limites ? Comment est-ce que tu parviens finalement à équilibrer ta charge de travail tout en préservant ta santé mentale et physique, surtout en tenant compte de ton profil qui m'a l'air un profil très actif et le fait que ta boîte est en hyper-croissance ?
Oui, alors effectivement, ben, tu sais, j'ai quand même énormément travaillé sur moi, on s'en rend pas compte parce que ben, quand on en parle comme ça, on comprend pas ce que ça veut dire énormément travailler sur soi, mais tu vois, par la force des choses, comme tu l'expliques pour me sortir de cette situation, j'ai énormément travaillé sur moi et j'ai fait un travail que je n'aurais, je pense, jamais fait si j'avais pas été dans cette situation de burn-out. Donc je pense qu'aujourd'hui, je me connais très très bien et surtout, je connais très très bien les signaux que mon corps peut m'envoyer. Donc je vais plus, si tu veux, me mettre en hors limite, on va dire, bien que parfois j'atteins un petit peu le max de mes limites et je sais que si je continue comme ça, c'est pas bon. Mais si tu veux, je me connais très bien, je connais très bien mon corps, je sais très bien ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, j'essaie vraiment de... C'est pas facile tous les jours, franchement, je suis pas la meilleure et c'est difficile de maintenir cet équilibre de vie pro-perso et cet équilibre de vie, tout simplement, cet équilibre avec soi-même. Mais j'essaie des trucs très bateaux, mais de bien manger, tu vois, je saute jamais un repas, je fais hyper attention à mon alimentation, je fais du sport, j'ai toujours fait du sport d'ailleurs, je fais beaucoup de méditation, j'en fais souvent le soir, juste avant de m'endormir, donc pas assise, mais allongée dans mon lit, je me mets une petite méditation. Je connais par cœur des exercices de respiration que je peux faire quand je veux dans la journée, et qui sont hyper bénéfiques, et je fais aussi très attention à toujours avoir des pensées, toujours, j'aime pas utiliser ce terme là et pourtant je le fais, mais le plus souvent possible avoir des pensées qui soient positives et non pas des pensées négatives qui vont être inutiles à ton quotidien, qui vont t'apporter de la mauvaise énergie et en plus de ça, ça va t'apporter de mauvaises choses. Donc tu vois, je fais quand même attention dans mon quotidien à adopter les bonnes attitudes, à avoir le bon comportement, c'est-à-dire mettre le bon carburant dans mon corps pour avoir la bonne énergie. Je cultive aussi énormément la gratitude. Moi, tous les, il n'y a pas un jour où je me dis pas, putain, c'est extraordinaire cette vie, c'est génial, merci, je sais pas, merci à moi, mais merci aussi à l'univers. Ça semble un petit peu con comme ça, mais cultiver la gratitude, c'est ultra important et ça permet aussi de préserver tout ce qu'on est en train de construire. Donc il y a plein de petites choses comme ça que j'ai mis en place au quotidien et qui m'aident à préserver un bon équilibre.
Un autre sujet, c'est que j'imagine que face aux challenges inhérents à l'entrepreneuriat, ça a dû parfois être challengeant de trouver un équilibre, pour réutiliser ce terme, entre ton rôle de maman et tes ambitions liées à l'entrepreneuriat. Comment tu as vécu ça ? Est-ce qu'à des moments, tu as ressenti peut-être même de la culpabilité ou une sorte de conflit entre ces deux rôles ou pas ? Ça, c'est une grande question aussi que beaucoup de femmes peut-être se pose, même peut-être l'anticipe avant même d'être déjà maman, comment je vais faire plus tard pour gérer mon business si j'ai telle responsabilité ou telle responsabilité, ou l'inverse, certaines peut-être qui ont des business et qui du coup ne veulent pas faire d'enfants parce que de peur de devoir faire un choix entre leur carrière ou leur vie familiale. Comment est-ce que tu l'as vécu et quelles seraient les différentes leçons de vie que tu pourrais partager à celles et ceux qui nous écoutent ?
Alors déjà, il faut savoir que quand on est dans une vie en tant que salarié et qu'on travaille énormément, ce qui était mon cas, moi je travaillais beaucoup, j'avais un rythme de vie qui était assez effréné, la vie parisienne quoi, tous les deux on travaillait beaucoup d'ailleurs, des postes qui te mettent un peu la pression, parce que ben, plus tu montes, plus tu as la pression, des équipes à gérer, etc. Et grosso modo, mon bébé, hein, parce que c'était un bébé à l'époque, je le voyais jamais, quoi. Je le voyais jamais, et j'allais le chercher, tu vois, je le déposais à la crèche, j'allais au boulot, j'allais le chercher à la crèche, je le faisais manger, il dormait, basta. Et moi, j'étais éclatée tous les soirs, et le week-end également, j'étais épuisée. Donc en fait, le temps de qualité, c'était pas, tu vois, même le week-end, c'était pas ça, quoi. Et en fait, c'est aussi prendre conscience que c'est pas une question de... C'est pas parce que tu vas être entrepreneur que tu auras moins de temps. L'idée, c'est de te poser la question, est-ce que 5 jours sur 7, tu mets ton énergie au bon endroit? C'est pas tant une question du nombre d'heures de travail par semaine, parce que là, je travaille, je pense, plus que quand j'étais salariée. Par contre, je suis hyper heureuse. Moi, je vois pas ça comme du travail, c'est de l'énergie que je suis trop heureuse de mettre dans ce projet, dans ce business. Donc, en fait, le problème, il est là, c'est qu'on passe la majeure partie de notre temps à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, qui sont pas en lien avec nos valeurs, avec nos désirs, etc. Et en fait, notre énergie, du coup, elle va être super basse, puisqu'on est en train de nourrir un truc qu'on n'a pas envie de nourrir, tout simplement. Donc, il faut bien comprendre cet aspect-là, tu vois, c'est deux choses différentes. Et le fait de devenir entrepreneuse en étant maman, c'est pas ça qui va te... Comment dire? Tu vas pas moins voir ton fils. Bien au contraire, moi aujourd'hui, mon fils, je le vois, mais je pense mille fois plus que si j'étais restée salariée. Enfin, tu vois, il va, par exemple, toutes les vacances scolaires, il est avec nous, il va jamais, ça va pas te parler, mais il va jamais au périscolaire. On va le chercher tous les soirs à 16h20, il reste jamais... pareil au périscolaire le soir. Enfin, vraiment, c'est en fait, tu choisis la manière dont tu veux construire ta vie, et ça, c'est une chance. Alors, bien sûr, après, je vais être amenée à bosser le soir, peut-être parfois le week-end, etc. Mais c'est totalement OK. Et non, je n'ai jamais culpabilisé. En fait, moi, je pars du principe que on n'a pas... C'est vraiment mon point de vue. On n'est pas mère pour se dédier à 100% à nos enfants. Et si on se met à la place de nos enfants, ben moi, en tant qu'enfant, j'ai envie de voir ma mère épanouie en tant que femme, en tant que maman, en tant que chef d'entreprise si elle l'est. C'est ça qui est inspirant pour nos enfants. C'est pas d'être une mère dédiée à ses enfants et de se dire, oh mon Dieu, il faut surtout pas que je travaille maintenant. Pas du tout. Il faut que tu travailles. Il faut que tu lui montres justement que tu es passionnée par ce que tu fais. Pour moi, je trouve que c'est vraiment hyper important d'être passionnée par sa vie professionnelle et de transmettre ça, de transmettre aussi la valeur travail, la valeur de la passion. Tout ça, pour moi, c'est ultra, ultra important. C'est fondamental, et j'ai pas fait un enfant pour être dédié à lui 100% de mon temps. Enfin, c'est pas du tout comme ça que je perçois les choses, en tout cas.
Complètement. Je passe du coq à l'âne en posant cette question brutalement, mais je me la pose depuis tout à l'heure et j'avais pas forcément d'opportunité pour celle-ci. Pourquoi avoir choisi le nom Les Locomotives?
Alors, c'est comment dire, rien d'extraordinaire. C'était. Alors, je crois que c'était le jour de mes 29 ans, si je ne dis pas de bêtises, j'ai toujours du mal à remettre les dates. Peu importe, jour de mon anniversaire, 28 ou 29 ans, on est sur un rooftop parisien avec ma meilleure copine Nina. On boit, je ne sais pas, un verre de vin, et on a une discussion sur le rapport homme-femme, et elle me dit, de toute façon, nous les femmes, on est des locomotives pour les hommes. Et je me suis dit, non mais attends, ce nom est génial, j'adore, je le trouve génial. Un jour, tu verras, je ferai quelque chose avec ce nom. Et un an plus tard, j'ai déposé ma marque, Les Locomotives, et tout a commencé à prendre sens, à prendre forme. Voilà comment ça s'est passé.
Hyper intéressant. Et du coup, tu confirmes, vous êtes des locomotives pour les hommes?
Non, alors ça, non, pas forcément, parce que... Comment dire, je suis féministe, bien sûr, mais je suis pas la féministe qui... Enfin, je prône pas les femmes contre les hommes, bien au contraire. Je prône les hommes et les femmes main dans la main, et on avance ensemble avec les mêmes droits, avec les mêmes choses, les mêmes... comment dire, les mêmes permissions. C'est plutôt ça, ma vision des choses. Et d'ailleurs, on vient d'intégrer notre premier homme, là, dans la Locomotive Academy. Donc, encore une fois, on montre qu'on n'est absolument pas fermé. Jusqu'à présent, on n'avait pas de demande. Et là, on a eu une première demande. Et évidemment, on l'a accueilli à bras ouverts. D'ailleurs, il a halluciné de l'accueil qu'il a eu, l'accueil général de toutes ces femmes. Mais au contraire, moi, je prône ce fait, tu vois, qu'on avance ensemble, main dans la main, quoi, carrément.
Un autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de femmes, peut-être même certaines, qui nous écoutent, qui, après une heure d'écoute, se disent « mais c'est incroyable, Sandra m'inspire, c'est dingue, je devrais pouvoir le faire, je devrais le faire, pourquoi j'ose pas le faire ?» et qui, du coup, peut-être n'ose pas passer à l'action, et que c'est pas forcément le premier podcast ou la première fois que cette personne qui nous écoute, femme ou homme, se pose la question. Selon toi, à quoi c'est dû cette... on va dire presque une maladie du 21e siècle, qui n'est pas liée à la procrastination, mais plus de l'incapacité finalement, comme la tétanie, à oser se faire confiance et oser passer à l'action, alors que finalement le coût nous coûte plus cher de rester dans la situation dans laquelle nous sommes plutôt que de tenter d'aller chercher la situation qu'on désire.
Je pense effectivement qu'il y a un côté qui n'est pas cool, c'est-à-dire ce côté hyper culpabilisant, parce qu'on va voir des femmes réussir et on va se dire, voilà, ben Sandra, moi aussi j'aimerais faire comme toi, t'es mon inspiration, etc., mais j'ai l'impression que j'y arriverai jamais, parce que si, parce que ça. Et en fait, on culpabilise, limite on est dans ce truc de culpabilité, où on se dira, de toute façon, j'y arriverai jamais. Et je pense que ça vient, alors encore une fois, c'est un peu cliché, mais je pense que c'est quand même l'état d'esprit de la France, quoi, tu vois, enfin, c'est un peu ce truc où on n'a pas été éduqué à avoir grand, on n'a pas été éduqué à se dire qu'on pouvait faire des trucs de dingue. Au contraire, la plupart des parents étaient un petit peu là pour nous remettre les pieds sur terre. D'ailleurs, c'est un terme qu'ils utilisaient souvent. Attends, quand même, garde les pieds sur terre. Tu te doutes bien que ça, tout le monde n'y arrive pas. Quand même, fais des choix de sécurité. Ne te mets pas trop, sors pas trop de ta zone de confort, etc. Je pense qu'on est éduqué comme ça à la base. Donc, c'est hyper dur de se dire, OK, on m'a appris comme ça. Il va falloir encore une fois que je déconstruise tout la manière dont j'ai été éduquée et que je revoie mes systèmes de pensée. Déjà, ça vient de là. Et puis ensuite, je pense que je pense que c'est quand même vrai. Je pense qu'on est flemmard, tu vois, de base. Et que le fait de se mettre dans l'inconfort et de se dire, OK, je vais me mettre dans l'inconfort, je vais devoir bosser, je vais devoir peut-être apprendre de nouvelles connaissances, peut-être, je sais pas, me faire un nouveau réseau, déclencher des opportunités, ça va du coup me demander beaucoup d'efforts. Et je pense que, en fait, on va se dire tout simplement, on va faire le raccourci, on va se dire, pourquoi tout simplement ne pas rester dans cette vie qui, certes, je la trouve moyenne, je ne suis pas fortement épanouie, mais au moins, ça me demande peu d'efforts et je m'allume la télé, j'allume Netflix, pardon, je me mets ma série préférée et puis j'oublie tous mes rêves, tu vois, c'est plus simple, en fait.
Ouais, complètement, je te rejoins. Tu disais une phrase à un moment donné, lorsqu'on a fait nos recherches par rapport à l'épisode, que 80% des femmes autour de toi ont des rêves, mais ne vivent pas leurs rêves, ou quelque chose comme ça, il me semblait. Je sais pas si ça te parle.
Ouais, complètement. Grosso modo, ce que je disais, c'était que 80% des femmes qui m'entourent avaient ce désir de changer de vie, de changer de vie professionnelle, de donner vie à des projets, mais qu'en gros, elles se sentaient... elle se résignait, en fait, c'est ce terme-là. Ben, en fait, moi, mon ennemi, de toute façon, c'est la résignation. Et en fait, elle se résignait à rester dans cette vie qui je n'arrive pas à faire la liaison, ne leur convenait plus. Mais je pense, encore une fois, par peur d'échouer, par peur de se tromper, par peur d'être jugée par les parents, par l'entourage. Attends, mais ton CDI, il est génial, en plus, t'as un super salaire, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et ton petit projet, ça se trouve, tu gagneras jamais ta vie. Et qu'est-ce que tu vas faire si ça marche pas? Et puis les gens ont aussi cette fâcheuse tendance à te mettre le nez dans ton caca, quoi, dans les choses qui vont potentiellement pas fonctionner, plutôt que de te dire, attends, t'imagines si ça fonctionne, ça va être incroyable. Tu vois, ils ont pas ce... Je trouve ce réflexe-là, ça va plutôt aller dans l'autre sens de « et si ça fonctionnait pas ?» Et tu te rends compte, qu'est-ce que tu vas faire? Et si tu retrouves pas de CDI derrière? Et est-ce que tu as prévu tout ça? Est-ce que tu as anticipé l'échec? Et ça fait peur, en fait. Ils nourrissent cette foutue peur, finalement.
Complètement, complètement. Sandra, c'était un plaisir d'échanger avec toi pendant cette heure. J'ai adoré cet épisode et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent d'ailleurs nous faire savoir s'ils ont apprécié cet épisode autant que j'ai aimé l'animer en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, un avis également et 5 étoiles sur Spotify selon la plateforme d'écoute que vous utilisez le plus. Partagez également cet épisode, on fera un article LinkedIn comme on le fait à chaque fois aussi à propos de ton parcours et on mettra les liens des locomotives directement en description de tout ça. J'ai une dernière question pour toi. Tu as évoqué plusieurs fois différents déclics dans le cadre de cet échange. Est-ce que tu peux nous partager un déclic, celui qui peut-être a créé littéralement une transformation, je dirais, identitaire chez toi? Ça peut être une situation, une citation, une simple phrase, quelque chose de positif, quelque chose de moins positif, peu importe, mais tu as carte blanche pour le mot de la fin.
Alors, je pense que le déclic, c'est quand j'étais en plein burn-out, anxiété généralisée, etc., et que j'ai eu très très peur de mourir. Je pense que j'ai tout de suite pris conscience que on n'était pas immortel, et que du coup, c'était quoi l'intérêt d'être sur cette planète, d'être de passage ici. Et je me suis dit tout simplement, mais il est hors de question que je ne fasse pas de ce passage un passage extraordinaire et que je ne vive pas toutes les expériences que j'ai envie de vivre, que je ne donne pas vie à tous les projets auxquels j'ai envie de donner vie et que je ne devienne pas la femme que je veux être et que je ne vive pas la vie de mes rêves. Voilà quel a été mon déclic et je pense que c'est le meilleur déclic parce qu'en fait, on est vraiment là, je pense, tous pour se construire la vie qu'on mérite de vivre et pour faire ce qu'on a envie de faire, quoi, tout simplement.
Merci Sandra.
Merci à toi.